un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est la nouvelle série d'Adila Benedjaizou que nous commençons à diffuser aujourd'hui, autant dire un événement. Après les années Boom, PMA hors la loi, l'affaire Salif B et plus récemment Exologie, que vous pouvez écouter ou réécouter sur le site de France Culture et l'appli Radio France, bien sûr, Adila Benedjaizou, c'est la femme qui savait nous faire binger, comme l'a dit une autre fameuse podcasteuse, Delphine Saltel. Tenez-vous prêts donc, voici en 5 épisodes ou un par semaine pour les plus sages, 5 volets addictifs pour ceux qui n'aiment pas forcément les JO, mais qui aiment les athlètes, la chair et le sang des jeux, nos héros. Et comme on n'a pas fini d'en entendre parler, alors autant s'y plonger tout de suite. Et c'est ainsi qu'Adila Benedjaizou, en suivant la préparation olympique de Frédéric Dagé, un lanceur de poids, et de Jona Egui, lanceuse de javelot, va vous faire découvrir que les athlètes sont des gens comme les autres, qu'ils ont des problèmes de santé, des difficultés de fin de mois, qu'ils sont confrontés au sexisme et ou au racisme. Bref, que le stade et ses héros sont traversés par les questions de notre temps. Tout de suite, premier épisode, les athlètes sont des pauvres comme les autres, où on apprend à quel point en athlétisme, les finances comptent autant que l'endurance.
Attendu la proclamation de l'ouverture des Jeux.
Le plus vieux symbole de la loyauté et du courage, la flamme olympique, ce gage de paix et d'amitié entre les hommes, va pénétrer bientôt dans cette enceinte. Que les exploits auxquels nous assisterons dans les jours prochains rendent cette flamme plus prestigieuse encore, car il importe à l'univers que soit préservé le noble idéal du baron Pierre de Coubertin.
Il faut que je vous fasse un aveu.
Je vous prie.
Je n'aime pas les Jeux Olympiques.
Je viens vouloir inviter Monsieur le Président de la République française.
Je déteste leurs officiels en costume, leurs courses au profit déguisées en fête de l'amitié, leur chauvinisme crétin et, par-dessus tout, leur prétention à une morale universelle. L'idée que pendant 2 semaines, le monde doit s'arrêter pour que règne la Pax Olympica et les valeurs de l'olympisme. On ne sait même pas exactement ce que sont ces valeurs d'ailleurs. Parce qu'entre la devise « l'important c'est de participer » et celle qui dit « plus vite, plus haut, plus fort », on notera qu'il y a une certaine contradiction quand même. En revanche, j'adore les athlètes.
Alors, les chaussures, c'est bon, les chaussettes, c'est bon, les gants, c'est...
On adore tous les athlètes, non? D'abord, ils ont des facultés inouïes. Comme de survivre à la cryothérapie. Cet exercice qui consiste à s'enfermer 3 minutes dans un caisson à moins de 100 degrés Celsius. Ils ont des corps magnifiques. Ils bougent comme si la gravité n'existait pas. Et ils pulvérisent tellement de records qu'ils arrivent à nous faire croire que l'être humain n'en finira jamais de courir plus vite, sauter plus haut et lancer plus fort. Alors j'ai voulu comprendre qui ils étaient. Je sais que ce que l'on regarde le plus souvent chez les athlètes, juste après leur corps, c'est leur mental. Moi, j'ai eu plutôt envie de m'intéresser à leur fin de mois difficile, à leurs problèmes de hernie et à leurs relations familiales. Tout ce qui les rend semblables à vous et moi. Et qu'on leur demande d'oublier le temps de la compétition. J'ai choisi de suivre la préparation olympique de 2 athlètes litchi.
Ce que les gens mettent sur la cagnotte, c'est normal de leur manger.
Je les ai appelés comme ça parce que ce sont des athlètes qui, faute de moyens, ont été obligés de lancer des cagnottes litchi pour financer leur entraînement. La première s'appelle Jona Egui.
Désolée, c'est trop chez moi dans ma...
Quand je la rencontre, je sais qu'elle a 24 ans, qu'elle est championne de France de lancer et de javelot, et qu'elle s'est fait connaître en poussant un coup de gueule sur ses difficultés économiques.
Moi, ce que j'aime dans le lancer de javelot, c'est que si on veut aller loin, il ne faut pas avoir envie d'aller loin, parce que sinon on se crispe. C'est tout un lâcher-prise, en fait, de pouvoir lancer loin, parce qu'on étire notre corps comme une corde d'un arc, et ensuite, on doit tout lâcher, et c'est comme si ton corps était un élastique et qu'il revenait. L'année dernière, le 22 mai 2022, je me suis luxé la jambe gauche. Donc il y avait mon tibia de travers, ma rotule sur le côté, et à ce moment-là, je me fais une rupture du ligament croisé antérieur. Donc je me fais rapatrier à la maison, ma jambe était tellement enflée que ça faisait presque coussin, mémoire de forme. Quand je mettais mon doigt dedans, la forme du doigt restait. Et donc j'ai dû faire une rééducation pré-op, me faire opérer, repartir à zéro, puis renforcer ma jambe. Et toute l'année, j'ai dit à tout le monde, je vais être championne de France élite. J'en étais persuadée, alors que c'était pas donné. Moi, j'ai dû réapprendre à marcher, j'ai dû réapprendre à courir. Ça a été très dur pendant longtemps. Mais j'ai fait ma route et arrivé au championnat de France élite fin juillet, je fais ma médaille. Donc cette médaille, elle représente beaucoup pour moi parce que déjà c'est la concrétisation de cette année de reconstruction. Mais aussi c'est une première performance qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris.
Depuis qu'elle est toute jeune, Yona fait des petits boulots à côté de ses entraînements. Mais après sa blessure, elle s'est rendue compte que son projet olympique exigeait d'elle qu'elle ne fasse rien d'autre que s'entraîner.
Pour une année olympique, je pense qu'un bon budget, c'est 40 000 euros. 40 000 euros, c'est pour payer le loyer, l'alimentation, donc tous les besoins vitaux, pour payer les transports et ensuite pour la mobilité internationale. Quand j'ai commencé à établir une stratégie de qualification olympique, je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je mette toutes mes cartes sur la table. Donc j'ai décidé d'employer toutes mes économies personnelles, d'utiliser mes aides étudiantes, et j'ai travaillé dans une colonie de vacances. Je me suis dit, bon, ça va pas suffire, il faut encore aller chercher un petit peu plus. À ce moment-là, j'ai vendu des meubles sur Le Bon Coin et sur Marketplace aussi, sur Facebook, ça fonctionne super bien. J'ai vendu pour 1000 euros de meubles. J'ai vendu des couverts, j'ai réussi à vendre mon canapé, j'ai vendu des draps, j'ai vendu des habits aussi sur Vinted pour aller grappiller les petits sous dont j'avais besoin. Et il y a plein de gens qui sont venus vers moi pour me pousser à ouvrir une cagnotte litchi. Moi, au début, je voulais pas le faire parce que j'avais un peu l'impression de faire l'aumône. Et donc, au bout de 15 personnes qui me disent « Envoie-moi ton RIB ou sinon ouvre une cagnotte », eh bien, tu ouvres ta cagnotte, ce que j'ai fait. À ce moment-là, il y a un journaliste qui s'est saisi de mon histoire et qui a commencé à la raconter au travers d'une interview. Et l'interview a super bien marché. Et donc, j'étais à la colonie de vacances en train de nettoyer les sanitaires. Et à ce moment-là, il y a l'interview qui sort. Et à ce moment-là, ma cagnotte, elle a totalement crashé. En 15 minutes, alors que j'étais en train de nettoyer les toilettes de la colo, j'ai pris 7000 euros sur ma cagnotte. Mais histoire incroyable.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sélection pour participer aux JO se fait sur classement, en fonction d'un nombre de points. Or, ce sont les grandes compétitions internationales qui rapportent le plus de points. Entre sa cagnotte litchi et l'arrivée de nouveaux sponsors, Yona dispose aujourd'hui d'un budget de 40 000 euros. C'est une somme qui lui permet de partir s'entraîner en Nouvelle-Calédonie et participer aux grandes compétitions de la région, dans lesquelles il est plus facile de rentrer qu'en Europe. Je l'accompagne jusqu'à son vol pour Nouméa, où elle doit rejoindre son nouvel entraîneur. En route vers son rêve, ses pointes de javelot dans la valise, Yona se sent riche. Mais pas au point de payer un supplément bagage quand même.
75 euros ! Oh là là ! On va essayer d'enlever des trucs.
T'as 5 kilos en trop, c'est ça ?
Ouais.
T'as des fringues là-dedans ?
Ouais.
Eh ben, il faut que tu l'enfiles, hein, tes fringues.
Une blague. Scanner le code barre de l'étiquette du bagage. Le moment de vérité.
Yes.
Ah, trop bien.
Franchement, j'adorerais partir avec Yona. Mais mon destin est de rester ici, avec les athlètes qui n'ont pas encore rempli leur cagnotte.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Salut. Salut.
Comme Frédéric Dagé, un lanceur de poids qui a créé sa cagnotte Litchi au mois de septembre 2023. Pour mettre toutes les chances de son côté, Frédéric est retourné s'entraîner à Montargis, le pays de son enfance, avec son tout premier entraîneur.
On écoute un peu Frédéric Dagé, lanceur de poids, et puis son entraîneur Jean-Pierre Orbati. Frédéric, en gros, il fait 1m92, 120 kg. Il est leur prof de France minime, cadet, junior, senior,
espoir.
Ok. Voilà, à présent, on va se mettre là, puis on va faire une photo avec lui, hein, d'accord ? Frédéric, tu vas te mettre au milieu. Jean-Pierre, tu viendras aussi.
Frédéric Dagé a 31 ans et il a été 7 fois champion de France au lancer de poids.
Lancer de poids, c'est un peu comme le lancer de disque, c'est-à-dire que c'est dans un plateau qui fait 2m135. On lance dans le plateau, on lance en tournant. Il y a un petit côté un peu danse classique, finalement, quand on regarde comme ça. Un mec de 130 kg faire de la danse, quoi. C'est mettre une force explosive conséquente avec un peu de grâce pour lancer loin. Moi, je suis devenu lanceur de poids grâce à mon prof d'école, au collège, en troisième. Je l'ai accompagné au stade d'athlétisme donc de Amilly, pas très loin d'ici. Je vois un mec arriver, en fait, mais un mec d'un mètre 75 pour, je sais pas, 115 kilos, avec des bras énormes, des cuisses énormes, enfin, un mec extrêmement musclé, comme on n'en voit pas forcément souvent. Et là, mes yeux, ils sont émerveillés, quoi. Moi, j'étais passionné de musculation déjà très très jeune. J'avais des posters de Schwarzenegger dans ma chambre, de Ronnie Coleman, tout ça. Enfin, j'étais attiré par ça. Je trouvais ça magnifique, en fait. Donc, je le vois arriver sur le stage. Je me dis, mais alors, mais c'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'il fait? Et je le vois d'un seul coup s'échauffer. Puis, au bout de 10 minutes, commence à lancer le poids. Et je dis, mais c'est quoi, en fait? C'est ça que je veux faire, moi. Donc, ça a été une sorte de coup de foudre, en fait. Tout simplement. Moi, je trouve ça beau, par exemple. Parce que je pense que c'est une espèce d'enveloppe corporelle où on se sent en protection, en fait. Moi, je sais que quand je perds du poids, je me sens en insécurité, en fait. Pour comparer, quand c'était en 2021, je crois que je fais le record de France, je faisais 128, 129 kilos. Aujourd'hui, je tourne autour de... aux alentours, je n'ai pas une balance exacte, mais autour de 120 kilos, quoi.
D'accord. Et donc, à 120 kilos, vous vous sentez comme une petite chose fragile?
Ouais, c'est bizarre de dire ça, mais en fait, oui, c'est vrai que c'est fou de dire ça, mais totalement. Ouais. Je pense qu'il y a un petit côté un peu, là, ce qu'ils appellent un peu bigorexie, là. Je crois que c'était une espèce de terme pour beaucoup de personnes qui font de la musculation au niveau, qui fait que quand ils se sentent maigres, alors qu'ils sont, ils font 130 kilos de muscles secs, ils se sentent pas bien, quoi.
Frédéric emploie le mot bigorexie. Moi, je dirais plutôt qu'il s'agit de dysmorphophobie. Vous savez, on a tous une copine agaçante qui se plaint d'avoir des grosses fesses alors qu'elle s'habille en 36. Eh bien, Frédéric, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Il se sent tout maigre dans ses 120 kilos. C'est pour ça qu'il mange sans hésiter le double des rations de Doriane, sa compagne. Ces deux-là se sont rencontrés il y a 7 ans grâce à une application de rencontre.
Vous vous souvenez de votre premier rendez-vous ?
Moi, j'étais hyper stressée parce que c'est quelqu'un de grand. Enfin, moi, je l'idéalise plus. Donc, il est grand, il est beau. Il me mettait une pression de fou. Ouais, je me sentais toute petite à côté. Et puis, comme si je méritais. Enfin, ouais, comme si je méritais pas forcément la personne. Donc, je me mettais dans des états, des fois, ouais, à vomir. Hein.
Au restaurant, quand on s'est rencontrés, carrément en plein milieu du repas, pour aller aux toilettes parce qu'elle allait vomir, quoi.
Oui, ça donne ça, hein.
Fort heureusement, assez rapidement, Doriane surmonte sa timidité et ses vomissements. Elle et Frédéric ont aujourd'hui une petite fille de 5 mois, Maë, qu'ils ont eue par PMA.
Un bébé miracle, comme on pourrait dire. On a mis 4 ans à l'avoir.
Ah, c'est vrai?
Oui.
Ouais, bah, quelques soucis de fonctionnement, notamment chez moi, donc...
Avec le sport, ils expliquaient.
Une espèce d'énorme
barrière. Ils expliquaient que,
qui bloque totalement les internes au niveau des organes génitaux, en fait.
Ouais.
Puis du coup, on a On a dû faire la procréation, là, faire un congelé, ainsi de suite.
On fait la FIV direct, et puis...
Ça donne beaucoup de rendez-vous. Mmh. Puis après, le nombre d'échecs au début, qui se passent plus ou moins, des fois, pas bien du tout, qui, du coup, faut revenir, faut... Ah ouais, ah ouais, c'est... Ah ouais, ça, c'est pas facile à gérer. Tu te retrouves tout seul à la maison, encore une fois, en plus, des fois, en tant qu'homme, à regarder ta femme souffrir, parce que toi, t'as rien du tout, en fait, hein, dans l'histoire. Enfin, c'est pas facile. Je pense que j'ai très mal vécu le fait de ne pas avoir été aux Jeux Olympiques là, de Tokyo en 2021, parce que je bats le record de France au championnat de France, devant la tribune et tous les élus. Alors, j'avais pas fait les minima, j'avais fait 20m75, qui était le record de France, mais les minima étaient de 21m10. À cette époque-là, en fait, ils m'avaient proposé de faire une compétition deux jours après, pour essayer de faire mieux. Sauf que nous, deux jours après, on avait notre PMA, en fait, tout simplement. Et qu'à un moment donné, bah non, j'ai dit, écoutez, vous me connaissez depuis maintenant 15 ans. Vous savez que je me donne corps et âme pour réussir. Mais là, j'ai une priorité, c'est ma famille. Donc, je pense que même si je m'y attendais totalement qu'ils me sélectionnent pas, il y a toujours une part d'espoir, un peu, on se dit, mais là, avec ce que j'ai fait, enfin, ils se rendent compte que, voilà, en fait, il y a une espèce de descente, je vais le dire, pratiquement aux enfers, hein, vraiment. J'avais très très peur, je me sentais mal, c'était compliqué. Je devenais stressé, anxieux, à un point où je broyais du noir, c'est pas compliqué, ma femme rentre à la maison, j'étais assis à table, je pleurais. Je devais aller faire le championnat d'Europe, j'ai arrêté ma carrière juste avant, je les ai appelés, je peux pas, c'est plus possible. Et je me suis dit, j'ai soufflé, et j'ai dit ok, c'est ça qu'il fallait faire. Et... j'ai eu un travail vraiment conséquent avec un psychologue qui est mais en or. Je suis tombé sur quelqu'un qui est pour moi atypique, c'est pas compliqué, c'est la première fois que je vois quelqu'un, il est plus costaud que moi hein, pour un psychologue, c'est rigolo. J'ai accroché finalement et au bout d'un an, ça m'a beaucoup aidé à avancer. Donc en fait, c'est plein de facteurs. Donc j'avais toujours un peu cet entraînement. Et puis voilà, petit à petit, de temps en temps, on relance un peu le poids. Je me dis que je suis pas mauvais, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Enfin, je sais pas, tout ça fait que d'un seul coup, quand on va mieux, ça fait un peu tilt. Alors, on verra si ça marche ou pas, mais j'y vais. J'y vais parce que c'est ce que j'ai envie. 12.
Le problème de Frédéric au moment où il décide de revenir dans la compétition, c'est qu'en suspendant sa carrière, il a aussi perdu une bonne partie des aides financières que lui octroyait la fédération.
En étant numéro un français, on gagne pas, on gagne pas non plus énormément. Hein. Ça dépend les clubs d'athlétisme. Moi, le mien, je suis à Nice Côte d'Azur Athlétisme, donc j'avais une prime annuelle. Il me semble que c'est 5 600 € sur l'année. Et après, il y a tout ce qu'on peut générer en gagnant des meetings. Donc mis bout à bout, allez, on a un peu moins de 10 000 €, quoi. Sachant que une bonne préparation, je dirais même en fait le minimum syndical pour couvrir tous les frais. Alors les frais ils sont très larges. Hein. Il y a les affaires, et allez, j'irai, c'est peut-être des fois 1 500 à 2 000 € de vêtements. Derrière, on a tout ce qui est médical. Et c'est ça qui est difficile, en fait. C'est pour ça que j'ai créé la cagnotte sur Internet. Donc moi, j'ai demandé 10 000 €. C'est ce qui à peu près comble les frais divers et variés, mais pour moi, c'est le minimum syndical pour faire quelque chose de sérieux. Voilà.
Je vous l'avoue, après avoir rencontré Yona et Frédéric, je me suis mise à douter. Avait-il un niveau international ? C'est alors que j'ai entendu parler de la cagnotte Litchi de Dimitri Bascou, qui fait de la course de haies. Il se trouve que Dimitri Bascou est déjà médaillé olympique. Il a remporté une médaille de bronze à Rio. Pourtant, lui aussi a eu recours à une cagnotte Litchi. En fait, tous les athlètes litchis que j'ai rencontrés demandent de l'argent à contre-cœur. C'est difficile de tendre la main quand on a appris à être un winner. Ce n'est donc pas Dimitri qui a lancé sa cagnotte, mais Maryse Evangé-Epé, la présidente de son club.
Dès le début, c'était quelque chose que ma mère et mon grand-père qui m'ont élevé me répétaient sans arrêt, que je ne gagnerais pas ma vie dans l'athlétisme. Ils avaient entièrement raison.
Salut Maryse, vous êtes pleine de grâce, vous avez 19 ans, nous l'avons dit, vous êtes la femme la plus haute de France.
Maryse Evangé-Epé a détenu pendant 21 ans le record de France de saut en hauteur. C'est une des grandes figures de l'athlétisme français. Aujourd'hui, Elle dirige bénévolement le club d'athlétisme de Noisy-le-Grand qui compte 415 adhérents et un seul salarié.
Alors en fait, c'est la troisième fois qu'on ouvre une cagnotte participative pour les raisons que j'ai évoquées, parce qu'on manque d'argent, tout simplement parce que depuis maintenant un an et demi, nous avons dans notre club Dimitri Pascou qui vient de fêter son 36e anniversaire et qui, comme beaucoup de champions, a décidé évidemment de ne pas passer à côté de Paris 2024 et d'essayer de se qualifier. Et donc on cherche des financements pour lui tout simplement parce que Dimitri n'est plus pris en charge par la fédération. Dimitri était demi-finaliste des championnats du monde en 2019, avant le Covid, et ensuite il s'est blessé en 2020. Et à partir du moment où on se blesse, on sort du système, entre guillemets. Donc on n'est plus sur ces fameuses listes de sportifs de haut niveau qui permettent d'avoir certains avantages économiques ou de pratique, de stage, d'accès à l'Institut national du sport ou autre. Très probablement, c'est une question d'âge et de potentiel. Mais ce que moi je trouve, ce qui m'agace beaucoup, c'est qu'on ne le dit pas ouvertement. Qu'on m'explique qu'on ne va pas soutenir les vieux champions, alors que évidemment que dans tous les pays qui organisent les Jeux Olympiques, tout d'un coup, il y a des plus de 35 ans qui disent ben « moi je continue parce que je veux aller aux Jeux Olympiques dans mon pays ». Très peu d'athlètes gagnent leur vie avec le sport de haut niveau. Voilà, les athlètes de l'athlétisme qui gagnent leur vie bien, correctement, je dis bien correctement, on va certainement pas s'amuser à comparer les revenus d'un athlète avec les revenus d'un footballeur, mais des athlètes qui gagnent correctement leur vie, il y en a une quinzaine à peu près en France. Après, ça a quand même énormément progressé. Nous, on était carrément fauchés. Je disais toujours, on est des millionnaires fauchés. C'est-à-dire qu'on voyageait dans des avions, on allait dans des hôtels 5 étoiles, on était reçus partout, mais par contre, dans le porte-monnaie, il n'y avait que dalle et dans le frigo, il n'y avait que dalle. Il y a eu deux moments où je me suis sentie, alors là, pour le coup, très pauvre. Je venais de gagner ma troisième médaille au championnat d'Europe en salle et je me suis fait une énorme entorse. Et donc, j'ai eu une année off quasiment. Et en 6 mois, j'avais plus rien. C'est-à-dire que je n'étais plus sur la liste d'athlètes de haut niveau. Et on m'a dit, quand tu reviendras en équipe de France, on te soutiendra. Et donc ça, ça a été une période où, quand j'ai repris l'athlétisme, mon entraîneur de l'époque me cachait dans sa voiture pour me rentrer à l'INSEP et me donner des tickets repas pour que je puisse aller manger à la cantine. Donc voilà. Et là, j'étais déjà mariée, j'avais 23 ans et j'étais fauchée. J'avais pas un rond. Voilà.
L'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, est un centre d'entraînement pour les athlètes de haut niveau. Mais une sportive peut perdre ce statut d'athlète de haut niveau en cas de blessure ou, à l'époque de Maryse, quand elle tombe enceinte.
Je me souviens que après la naissance de ma fille, j'avais plus aucun sponsor, j'avais plus rien, et que mon entraîneur m'avait filé 2 survettes peau douce, il y avait marqué c'était le sponsor dessus, je sais pas, c'était un truc publicitaire qu'on lui avait donné, comme il dit tiens voilà, t'as des fringues. Or l'année d'avant, j'étais médaillée des championnats d'Europe, j'étais en équipe de France, j'avais toujours le record de France, mais tout le monde disait oui, elle vient d'avoir un enfant, elle a 27 ans, c'est foutu, elle reviendra plus. Et pourtant, j'ai encore été championne de France les 5 années qui ont suivi. On prend la claque des années après, en fait. La dépression, la grosse claque, on la prend 10-15 ans après quand on se rend compte de tout ce qu'on a traversé. Et ça arrive souvent par le biais d'un autre athlète. Je pense que ce qui m'est arrivé est exactement la même chose qui arrive à Dimitri. Je suis touchée par son histoire parce que je ne veux pas qu'on l'abandonne. Je trouve ça injuste. Moi, par exemple, une athlète pour laquelle, et là, j'ai les larmes qui montent un peu parce que je suis très sensible, mais pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, c'est Dawal Meniker, la jeune sauteuse en hauteur qui était au championnat du monde. Elle a rien à voir avec moi, je suis pas sa mère, je suis pas sa copine, mais je la suis depuis toute jeune. Elle a été championne de France, vice-championne olympique de la jeunesse, vice-championne d'Europe, et ensuite elle a eu une traversée du désert de 9 ans. 9 ans, c'est monstrueux en fait. Et en fait, elle me bouleverse parce que j'ai eu une traversée du désert de 1 an et demi et j'ai failli sombrer. Si j'avais pas eu autour de moi des gens qui croyaient encore en moi, si j'avais pas eu mon mari, si j'avais pas eu mon entraîneur, jamais je n'aurais pu reprendre l'athlétisme. Ils ont été là constamment pour me dire « t'es pas fini, t'as encore des choses à faire, tu vas encore être en équipe de France, tu vas revenir ». Et en fait, vous avez envie de vous battre, et c'est peut-être pour ça que je me bats autant pour Dimitri. parce que je trouve ça dégueulasse. On ne devrait pas traverser ça. Moi, tous ces abrutis, derrière leurs écrans planqués, qui disent « Ah bah ouais, mais il est fini, il a 36 ans, il devrait prendre sa retraite, il ferait mieux d'aller bosser, on n'a pas que ça à foutre, etc. » Mais bon sang, en l'honneur de quoi on méprise à ce point-là le sport ? Le sport est un boulot comme un autre, vous grandissez comme les autres. Et c'est un boulot qui, un peu comme un pompier ou comme un militaire de carrière, s'arrête tôt. Et il faut prévoir la suite. Mais c'est un métier. Et si on ne le fait pas à fond, on n'a aucune chance d'avoir des médailles. Mais pour le faire à fond, il faut être un peu soutenu. Donc, putain, mais respectez-nous, quoi. 2 secondes, respectez-nous.
Je comprends maintenant que les médailles peuvent coûter très cher aux athlètes. Il et elle portent le rêve de victoire de tout un pays, mais ils le portent seuls. Leur corps est le support fragile de leur rêve de performance et de gloire. Je décide d'accompagner Yona et Frédéric dans leur projet.
J'espère que tout se passera bien sans pépin.
Ils ont jusqu'au mois de juin 2024 pour être sélectionnés aux Jeux Olympiques de Paris. Ils n'ont pas tout à fait la même stratégie. Yona veut se classer parmi les 30 meilleures lanceuses mondiales et Frédéric compte faire la performance minimale exigée par la Fédération internationale d'athlétisme. Mais ils ont la même opiniâtreté. Ils font un pari qui engage leurs économies, leur vie de famille et leur santé. Vont-ils le gagner, ce pari ?
Là, je pense, j'espère même en fait d'entrée de jeu taper fort. Voilà, clairement. Taper fort d'entrée de jeu pour leur montrer que je suis bien de retour, mais que c'est pas juste ça, quoi, que je vais y aller au jeu.
De quoi vous avez besoin pour être sélectionné ?
21m50, voilà. Donc 70 cm de plus que mon record, quoi.
C'était le revers de la médaille, premier épisode. Les athlètes sont des pauvres comme les autres. Un reportage d'Adila Benedjaizou, réalisé par Somaya Dabesh et mixé par Dali Yaha. Merci à Jona Egoui, bien sûr, à Frédéric Dagé, à Dorian et Maé, à Maryse Ewanje Epé, à Dimitri Bascou, à Xavier Delaporte, à Renaud Longuèvre, à Nathalie Yaneta et à Sylvain Deric. La musique de cette série est composée par Gilles Lavanant. Notre attaché de production, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi.